Interrompu dans son discours à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU par les rires moqueurs de ses pairs, Donald Trump mériterait pourtant d'être à la fois pris au sérieux et écouté avec attention. Déjà accueilli à l'époque avec un mélange d'amusement, de scepticisme, les promesses de campagne du candidat Trump de détricoter l'héritage Obama, de mettre à plat le système diplomatique international au seul profit de l'America First, sont aujourd'hui devenus des réalités. Retrait des accords de Paris, dénonciation des accords de Vienne sur le nucléaire iranien, en passant par ses attaques contre l'OTAN, l'UNESCO, la Cour pénale internationale et tout organisme et traité qui ressemble de près ou de loin à une forme de coopération interétatique. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Pierre Grosser. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Grosser, vous êtes enseignant en histoire, vous êtes spécialiste de l'Asie, vous avez publié L'histoire du monde se fait en Asie aux éditions Odile Jacob, et puis vous êtes aussi spécialiste du diable, mais du diable dans les relations internationales, et on en parlera aussi puisqu'il est de plus en plus question de diable. Il y en a de plus en plus aujourd'hui dans le monde. Mais tout d'abord, puisque l'on dit que Donald Trump détricote ce système diplomatique international, un système qui était fondé sur un mot qui n'est finalement pas aussi clair que cela, le mot de multilatéralisme. Expliquez ce qu'est le multilatéralisme, expliquez-le nous et expliquez-nous pourquoi ce terme est aujourd'hui devenu désuet.
Alors, il faut partir de quelque chose qui est assez spécifique, c'est-à-dire que sur la scène internationale, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de président du monde, il n'y a pas d'État mondial. Donc, on a un certain nombre d'États qui sont juridiquement égalités, mais qui en fait sont assez inégaux. Et donc, pour se mouvoir dans ce monde-là, soit vous faites de l'unilatéralisme, c'est-à-dire vous faites ce que vous voulez pour défendre vos intérêts. Pensez à Adolf Hitler, qui évidemment s'intéressait peu à des alliances, s'intéressait plus assez peu aux intérêts des autres. Le bilatéral, c'est le mode traditionnel, hein, on discute avec quelqu'un, soit pour essayer de le faire plier, soit évidemment pour en faire un allié. Et face à des défis qu'on imagine communs, notamment le défi de la sécurité après 1945, eh bien on s'est dit que c'était peut-être mieux de se mettre tous ensemble autour de la table et d'essayer de tamiser les rivalités d'intérêts, de tenir compte des intérêts des autres, de tamiser aussi les rivalités de puissance en parlant ensemble face à des défis qui sont communs. Alors les défis communs, ça a été la paix et la sécurité pendant assez longtemps, ça peut être l'environnement, ça peut être les questions de migration, ça peut être tout un tas de questions, et c'est ça qui donne parfois des organisations internationales qui, elles, finalement, figent ce système multilatéral.
Mais alors, on a tendance à dire que les États n'ont pas d'amis, qui n'ont que des intérêts. Est-ce que finalement, ce multilatéralisme, ça n'est pas uniquement le fait de bien comprendre son intérêt en tant qu'État? Si par exemple, les États-Unis n'ont plus d'intérêt à s'allier avec d'autres, pourquoi persisterait-il dans le multilatéralisme, Pierre Grosser?
Alors, ça a d'autres vertus, c'est-à-dire que ça permet de ne pas avoir quand on discute avec, par exemple, les Européens, que les Européens n'aient pas l'impression que les États-Unis sont trop forts, puisqu'ils discutent avec tous les Européens. Donc, ça tamise, d'une certaine façon, encore une fois, la puissance américaine. L'autre chose, c'est qu'on a l'impression que c'est plus efficace. Et il y a, depuis très longtemps, tout un discours sur il faut un multilatéralisme plus efficace, parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas toujours efficace pour régler les problèmes du monde. Mais, si vous voulez, la grande question, c'est effectivement, à partir de quand est-ce que vous considérez que le fait d'appartenir à des organisations multilatérales fait des amis de ceux avec qui vous discutez, ou en tout cas des compagnons de route pour lutter contre un certain nombre de problèmes, ou alors que vous avez l'impression que ces amis sont des passagers clandestins, c'est un terme qui est utilisé très souvent par Monsieur Trump, c'est-à-dire des gens qui profitent de votre puissance, parce qu'évidemment dans ce système multilatéraux, ces organisations multilatérales, il y a bien quelqu'un qui paye. Et les Américains ont souvent l'impression de payer plus, que ça soit dans l'OTAN, que ça soit à l'ONU, ou que ça soit ailleurs.
Mais alors, justement, dans le discours de Donald Trump, on a l'impression que Donald Trump et donc les États-Unis n'en font qu'à leur tête qu'ils dominent le monde. Et il y a, en une du New York Times aujourd'hui, un article très intéressant de Thomas Friedman, c'est un éditorialiste important aux États-Unis et au New York Times, et celui-ci évoque la guerre entre la Chine et les États-Unis, et il dit tout d'abord, en substance, la Chine est aujourd'hui beaucoup plus puissante que les États-Unis sur le plan commercial. Alors, il cite par exemple un chiffre. Il dit, voilà, il y a 20 ans, deux des premières sociétés en haute technologie étaient chinoises. Aujourd'hui, sur les 20 premières, il y en a 9. Et il cite une blague aussi, issue d'un film Crazy Rich Asians, des Asiatiques très riches. C'est un film à la mode aujourd'hui aux États-Unis. Et dans ce film, la blague, c'est « si tu ne termines pas ton assiette, pense aux pauvres Américains ». Est-ce que finalement, ce face-à-face entre les États-Unis et la Chine est véritablement au bénéfice des États-Unis ? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà perdu cette bataille ?
Alors ça fait partie des très grosses discussions aux États-Unis aujourd'hui, et notamment de savoir si oui ou non la Chine est en passe de rattraper les États-Unis, voire s'ils l'ont fait déjà. Il y a quand même un certain consensus pour dire, si on prend tous les aspects de la puissance, et ils sont quand même très nombreux pour essayer de comprendre la hiérarchie des puissances, la Chine n'a pas encore rattrapé les États-Unis. Après, la question, c'est évidemment le trend général, la tendance générale, et on peut dire que si c'est pas maintenant, c'est dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. Et la grande question qui se pose aux États-Unis, et d'ailleurs pas seulement aux États-Unis, c'est de savoir si les Chinois n'ont pas profité des règles du jeu que nous avions instaurées, notamment dans les années 90 avec le libéralisme, le néolibéralisme, le fait que, d'une certaine façon, les Américains comme les Japonais ont favorisé finalement ce développement de la Chine à partir de la fin des années 1970, et qu'on sait, d'une certaine façon, tirer une balle dans le pied. Par exemple, il y avait cette idée au début des années 90 que le monde, ça allait être très très simple, c'est en gros, les emplois à haute valeur ajoutée allaient être aux États-Unis et on allait donner des ordres aux petits Chinois qui allaient fabriquer les produits. Et puis on s'est aperçu que, évidemment, il n'y avait aucune raison que les petits Chinois, comme on disait, continuent à fabriquer des produits, j'allais dire, uniquement avec leurs petites mains. Et donc, ils sont montés en gamme technologique et qui sont devenus une grande puissance commerciale. Et donc, évidemment, la vraie question, c'est est-ce que ces règles du jeu qui sont plutôt euro-américaines, notamment dans le cadre de l'OMC, n'ont pas profité plus aux Chinois qu'aux Européens et aux Américains.
Mais oui, mais alors ce qu'il donne, par exemple, dans l'article de Thomas Friedman qui est très hostile à Trump, et il dit finalement, eh bien oui, les États-Unis doivent se confronter à la Chine.
Alors effectivement, vous avez un certain nombre de gens qui disent d'ailleurs c'est pas nouveau, hein, ça fait quand même une dizaine ou une quinzaine d'années. En gros, c'est le milieu des années 90 où la menace japonaise, parce qu'à cette époque-là, c'était plutôt le Japon, hein, jusqu'au début des années 90, qui semblait menacer le modèle économique américain et passer devant les États-Unis. D'ailleurs, Trump a commencé sa carrière en dénonçant le Japon. Qu'à partir du milieu des années 90, on parle de menace chinoise. Menace chinoise d'abord économique, et puis petit à petit ça a été une menace stratégique. La grande question, c'est est-ce que cette montée en puissance, qui peut être un relais de l'hégémonie américaine, va provoquer une guerre ? Et aujourd'hui on analyse énormément, et à mon avis à tort parce que ça n'a rien à voir avec l'histoire, la rivalité entre l'Angleterre et l'Allemagne à la veille de 14. Et beaucoup de gens interprètent encore
une fois à tort. Pourquoi ça n'a rien à voir ?
Alors, je vais déjà rappeler, hein, donc cette idée, c'était, il y avait une Pax Britannica, c'était les Britanniques qui dominaient, il y a eu déclin britannique, et en même temps un challenger qui était l'Allemagne. Ben, ça n'a pas grand-chose à voir, parce qu'à l'époque, il y avait d'abord une rivalité franco-allemande, et surtout, un des grands problèmes, c'était la Russie. Et l'Allemagne n'est pas rentrée en guerre par rapport à l'Angleterre, elle est très largement rentrée en guerre par rapport à la Russie, qui était en train de remonter en puissance. Donc la focalisation sur les relations entre l'Angleterre et l'Allemagne sont un peu illusoires. En revanche, ce qui est évidemment l'autre option, c'est que les Chinois ne soient pas les Allemands des Britanniques, hein, ou l'équivalent des Allemands pour les Américains, mais soient l'équivalent des Américains pour les Britanniques. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a jamais eu de guerre entre les Britanniques et les Américains, mais les Américains, en fait, ont pris le relais de l'hégémonie britannique entre les années 20 et les années 30, voire les années 40. Et donc, un certain nombre de gens disent, ben, laissons finalement faire le temps, on va avoir une espèce de co-hégémonie entre Américains et Chinois pendant un moment, et puis on va voir ce que ça donne, et peut-être finalement aussi, c'est une question qu'on peut poser, qu'est-ce que va donner une hégémonie chinoise si finalement elle se met à l'unisson d'un certain nombre de pratiques qui sont favorables à tout le monde. Et ça, c'est une question évidemment qu'on se pose évidemment en Asie, avec des gens qui sont finalement assez favorables à la montée en puissance de la Chine.
Alors, hégémonie chinoise, il y a quand même un bémol, lorsqu'on parle du multilatéralisme, le multilatéralisme consiste à passer des alliances. Est-ce qu'un pays
des
sans...
C'est pas forcément, les alliances, c'est normalement des alliances bilatérales, marquées. C'est pour éviter d'une certaine façon les alliances.
Mais alors, lorsque l'on est un pays isolé, et justement la question se pose pour la Chine, qui sont ses alliés aujourd'hui ? Est-ce que l'on peut considérer qu'un pays qui a moins d'alliés que les États-Unis, parce que les États-Unis aujourd'hui demeurent encore insérés Et malgré tout, avec le Canada aussi, dans des relations proches, conflictuelles certes, mais malgré tout qui existent, par exemple avec le Mexique. Est-ce que dans ce monde-là, un univers sans accord, sans alliance est possible ?
Alors d'abord, la Chine a une relation avec les alliances, j'allais dire très traditionnelles, difficile, parce que sa vraie grosse alliance, c'était avec l'Union soviétique, et ça s'est assez mal passé, d'où le schisme sino-soviétique des années 1960, et une quasi-guerre, enfin une petite guerre en 1969 entre les deux. Donc il n'y a pas vraiment d'appétit pour les alliances, même si aujourd'hui, avec la Russie, on discute de savoir est-ce qu'il peut y avoir un jour une alliance entre la Chine et la Russie, qui d'ailleurs serait pas très très intéressant pour les intérêts américains, vous pouvez bien le comprendre. À côté de ça, il ne faut pas imaginer que la Chine est isolée d'abord parce qu'elle est membre de toutes ces organisations internationales. Et elle prend de plus en plus de place dans ces organisations internationales. Je vous rappelle que parmi les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la Chine qui envoie le plus de casques bleus sur le terrain. Elle, aujourd'hui, elle monte en puissance et elle demande de monter en puissance dans le FMI. Donc si vous voulez, ce à quoi on insiste aujourd'hui, c'est à la fois que la Chine prend de plus en plus de poids dans ses organisations multilatérales traditionnelles, et en même temps, comme elle a l'impression sans doute qu'on ne lui fait pas suffisamment de place, elle est en train de créer ses propres organisations ou finalement ses propres manières de faire, avec notamment cette fameuse route de la soie.
Continuons à revisiter ce monde de plus en plus compliqué en votre compagnie, Pierre Grosser. Vous qui êtes enseignant en histoire et en relations internationales à Sciences Po, vous parliez des relations sino-soviétiques, ça c'était avant. Le rôle de la Russie aujourd'hui dans ce nouveau tableau complexe?
Ben justement, c'est toute la question, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que le pivot de la Russie vers l'Asie, on avait longtemps parlé du pivot des États-Unis vers l'Asie à l'époque d'Obama, mais on aperçoit une forme de pivot russe vers l'Asie, est-ce que ce pivot va être durable ? Pour certains, il est uniquement lié aux tensions depuis 2013-2014 avec l'Occident, pour aller très très vite, notamment sur la Crimée, l'Ukraine, les sanctions occidentales, etc. Et donc, j'allais dire dépité, Poutine, qui ne rêve que d'être reconnu à l'intérieur de l'Occident, se précipiterait vers l'Asie uniquement pour se faire rappeler à l'ordre et tirer par la manche, reviens, Vladimir, on a besoin de toi. Bon, dans la réalité, cette orientation vers la Chine et vers l'Asie, qui est quand même l'endroit où on fait des affaires aujourd'hui, où il y a de l'argent, eh bien c'est quelque chose qui est relativement ancien. Ça ne veut pas dire qu'il y a rupture totale avec l'Occident et que l'Occident n'intéresse pas la Russie, bien entendu. Bien sûr. Mais c'est une évolution qui est assez à long terme. Et plus vous avez des tensions, évidemment, entre Américains et Russes, et surtout entre Européens et Russes, eh bien plus c'est difficile d'imaginer que la Russie prendra de la distance avec la Chine, qui est encore une fois des capitaux. La seule chose qui, évidemment, a posé comme question, c'est est-ce que, finalement, la Russie peut accepter de devenir le partenaire junior, le junior partner de la Chine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les rapports de puissance par rapport à cette époque sino-soviétique se sont totalement inversés. C'est la Chine la puissance.
Alors, dans ce contexte-là, on se demande quel rôle peut jouer la France. Écoutons Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU.
Je sais que défendre la coopération et le multilatéralisme peut ne plus être à la mode. Alors ne soyons pas à la mode. Parce que nous le devons à ceux qui nous ont permis d'être assis là. Parce que n'oubliez jamais que les génocides qui ont fait que vous êtes là aujourd'hui, ils étaient nourris par les discours auxquels nous nous habituons. Parce qu'ils ont été nourris par les succès d'estrade que nous applaudissons. Parce que nous sommes en train aujourd'hui de voir se déliter ce droit international, toutes les formes de coopération, comme si de rien n'était, par peur, par complicité, parce que ça fait bien. Non ! Moi, je ne m'y résous pas. N'acceptons pas toutes ces formes d'unilatéralisme. Chaque jour, ces pages déchirées, ces trahisons à notre histoire. Moi, je ne m'y habitue pas. Alors, je vous le dis très clairement, le siècle qui s'ouvre nous regarde. Et nos enfants nous attendent. Réglons les crises. Œuvrons ensemble à lutter contre toutes ces inégalités.
On entend le point sur le pupitre, Pierre Grosser. Au-delà du point, dans quelle mesure la France peut peser dans ce monde-là ?
Alors, peser dans ce monde-là, ça c'est une vraie question. D'une part, il faut bien comprendre que pour la France, il y a quand même ce passé d'avoir une société des nations qui naît après la Première Guerre mondiale, qui a échoué parce que les États ont échoué à la faire tenir, qui a eu les années 30, donc la Deuxième Guerre mondiale, et on a reconstruit l'ONU en 1945, l'OTAN en 1949, qui, dans l'acception commune, et sans doute, ça a une part de grande part de réalité, ont permis de maintenir la paix. Alors, qu'est-ce que la France peut faire? Eh bien, dans le discours de Monsieur Macron, c'est de dire, un, il faut faire plus parce que les défis communs sont importants, et vous savez que le climat, pour certains, est le défi commun. Et normalement, ça devrait souder tout le monde. On n'a pas, tout à l'heure, je vous ai dit que chaque État, finalement, était autonome et qu'il n'y avait pas un gouvernement mondial. Mais si on a un défi commun, c'est-à-dire, par exemple, la question du climat, du réchauffement climatique, à la limite, on peut se mettre tous ensemble. Et ça, c'est un discours qu'on entend depuis très très longtemps. Donc, il faut faire plus. L'idée, c'est aussi de faire mieux. C'est-à-dire que, et ça, ça a été quand même des choses importantes à l'intérieur de son discours, de dire qu'il y a quand même eu des échecs de ce multilatéralisme, des échecs de cet ordre économique international, etc. Donc, il faut faire mieux. Et puis, ce qu'il a dit, c'est qu'à partir du moment où vous avez les États-Unis, les Chinois, les Russes qui traînent les pieds, il faut faire autrement. Il faut faire autrement, c'est-à-dire qu'il faut trouver d'autres formes de coopération peut-être moins nombreuses, des coopérations thématiques, et finalement c'est un petit peu ce qu'il dit aussi pour l'Europe. C'est-à-dire qu'il faut faire plus, qu'il faut faire mieux, qu'il faut faire autrement. La seule différence, c'est qu'à l'intérieur de l'Union européenne, vous pouvez dire que vous pouvez essayer de faire pression sur la petite Hongrie, sur la moyenne Pologne, pour les faire, j'allais dire, rentrer dans la ligne, tandis que à l'échelle internationale, la France, ça va pas être facile de faire pression, si jamais on essaye réellement de faire pression, mais je crois que c'est vraiment l'objectif de Monsieur Macron, en tout cas pour les États-Unis et peut-être sur la Chine et la Russie, pour les ramener dans le jeu, parce que encore une fois, les défis sont considérables.
Mais l'Europe, justement, de qui parle-t-on aujourd'hui? Jadis, on se demandait quel était le numéro de téléphone de l'Europe. Aujourd'hui, on a du mal à se dire que tous ces pays, vous dites la petite Hongrie, la Pologne, la France, l'Allemagne, les intérêts sont-ils convergents? Les représentations du monde sont-elles convergentes, Pierre Grosser?
La réponse est simple, c'est non.
Alors, dans
la réponse
ces conditions,
est simple,
que fait-on?
Non. Eh bien, si Monsieur Macron tape sur le pupitre, c'est qu'il faut convaincre. Et donc, c'est tout le problème de la diplomatie française depuis quand même assez longtemps, parce que souvenez-vous quand même du président Chirac sur la terre qui brûle, etc., etc., notre monde qui brûle. Eh bien, c'est qu'on a une puissance de conviction, mais nous sommes maintenant une puissance qui a les moyens. Quelques moyens diplomatiques, mais de moins en moins, parce qu'on quand même on sucre quand même assez largement les crédits de la diplomatie. Or, il faut créer des alliances, aller voir les gens, convaincre, etc. aussi, j'allais dire, de façon bilatérale pour les amener vers le multilatéral. Et puis, nous sommes, par rapport à la Chine maintenant, par rapport à des pays émergents, nous sommes pas une très grande puissance, il faut quand même le reconnaître.
C'est-à-dire que votre optimisme, ou en tout cas notre capacité à nous, Français, à peser dans ce jeu-là, est faible?
Eh bien, c'est tout le problème est de trouver des marges de manœuvre, un, pour convaincre notamment par le discours, et deux, essayer de créer des alliances sur tout un tas de sujets.
Alors, il reste au moins un discours qui jadis portait, c'était le discours des droits de l'homme, et celui-ci, il est aussi en crise. On en parlera dans une vingtaine de minutes, Pierre Grosser. Vous serez rejoint par Geneviève Garrigos, qui est ancienne présidente d'Amnesty International France et aujourd'hui porte-parole et responsable de la région Amérique pour Amnesty International. Je rappelle, Pierre Grosser, que vous avez publié « L'histoire du monde se fait en Asie », c'est chez Odile Jacob. 8h sur France Culture.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
On va tenter de voir si ces figures autoritaires sont déconnectées, elles, puisque on les accuse rarement de l'être. Nous sommes en compagnie de Pierre Grosser, qui est enseignant en histoire, et vient de nous rejoindre Geneviève Garrigos, ancienne présidente d'Amnesty International France. Pierre Grosser, est-ce que l'on dit de Donald Trump, de Xi Jinping, qu'ils sont déconnectés?
Non, on ne dit pas qu'ils sont déconnectés, même si on a l'impression avec Donald Trump, qui passe beaucoup de temps avec ses comparses sur des terrains de golf. Mais je pense qu'il a un peu moins, et même beaucoup moins que les dictateurs traditionnels, le sentiment qu'en fait, il connaît exactement quel est l'intérêt de son pays, ou de son peuple, ou de la classe sociale qu'il représente, comme à l'époque de l'Union soviétique. Et donc, on ne peut pas expliquer à un président élu qu'il est totalement déconnecté d'une société dont il connaît certaines parties, mais évidemment, un président ne connaîtra jamais toutes les parties.
Geneviève Garrigaud.
Oui, et effectivement, toute la question, c'est que, et on le voit bien, et le cas de Donald Trump me paraît assez emblématique à ce niveau-là, c'est que, en fait, ils connaissent bien leurs électeurs et ils savent pourquoi leurs électeurs votent pour eux. Peut-être qu'ils ne les connaissent pas bien, mais ils savent pourquoi ils votent pour eux. Donc, ils vont prendre des mesures qui vont dans le sens de ce qu'ils attendent. Et il est clair que dans le cas de Donald Trump, on retrouve dans ses dernières actions, on retrouve tous ces éléments de campagne, ces propositions. Et d'ailleurs, ce qui est étrange, c'est qu'on est dans un nouveau discours, c'est « je fais ce que j'ai dit ». Et parfois, on voit les résultats de ce que ça donne.
Justement, ce qu'il a dit en matière de fin du multilatéralisme, le fait donc de considérer que désormais l'intérêt des États-Unis doit primer, et finalement l'oubli d'un terme, un terme que vous connaissez bien, Geneviève Garrigaud, puisque vous êtes engagée auprès d'Amnesty International France et vous avez suivi un certain nombre de batailles dans ce domaine, le terme de droit de l'homme. On a l'impression que ce terme qui gouvernait les relations internationales, en tout cas sur le plan des discours, il n'y a pas si longtemps que ça, est aujourd'hui devenu complètement désuet. Est-ce votre sentiment ?
Le constat, en tout cas, est effectivement que quand on regarde ce qui s'est passé après la chute du mur de Berlin et la réorganisation des relations entre les États, y compris au niveau des Nations Unies, on est passé par une phase où on a vu nombre d'États qui ont commencé à ratifier les conventions, à se déclarer en faveur, très actifs au niveau des instances internationales. On sait que pour beaucoup, c'était une question d'image, parce qu'on voulait aussi donner une image positive, une image « venez investir, venez pour le tourisme chez nous », c'est finalement les droits sont respectés. Et on a glissé progressivement vers une tendance qui est, et là ce serait, je dirais presque le chef de file, ce serait les Chinois avec le « écoutez, ne venez pas, moi je ne dirai pas ce qui se passe chez vous, mais ne venez pas me dire ce qui ne va pas chez moi ». Et ça on l'entend même dans la bouche d'Emmanuel Macron, on l'a entendu à plusieurs reprises. Et pour moi il y a un État qui est je sors un peu de ces grandes puissances, mais il y a un État qui symbolise qui représente très bien cela, c'est le Mexique.
Pourquoi ?
En 2002, le président Fox est élu et il rentre dans une activité diplomatique intense au niveau des Nations Unies. Il participe à l'élaboration, le Mexique s'investit dans l'élaboration de beaucoup de conventions, celles sur les disparitions forcées, les peuples autochtones, mais vraiment très très dynamique, alors que dans le pays, ça n'avance pas. Et d'ailleurs, en 2006, il y a la guerre contre le narcotrafic qui est déclarée, avec depuis, il y a plus de 36 000 disparus. Aujourd'hui, c'est le 4e anniversaire de la disparition des étudiants de Ayotzinapa. On ne sait toujours pas ce qui se fait. On a vu toutes les entraves qu'il y avait au niveau de la justice. Et le nouveau président élu qui, comme Fox, représente une certaine forme de rupture, dans son discours, commence à dire « non, moi je ne vous dirai pas, mais ne me dites pas à moi non plus ». Donc on voit que cette tendance, elle se généralise et c'est très inquiétant.
Pierre Grosser.
On a l'impression de revenir un peu à 1945, c'est-à-dire que quand on a signé tous ces textes, et toute une série de textes entre 45 et 50 qui ont été signés, en fait, tout le monde les signait, mais il y avait dans ces textes beaucoup de restrictions sur la souveraineté. Les Américains voulaient pas tellement qu'on aille voir ce qui se passait avec les Noirs chez eux. Nous, les puissances coloniales, on n'était pas très contents qu'on vienne regarder ce qu'on faisait dans nos colonies, etc., etc. Et puis, dans les années 70, effectivement, il y a eu un mouvement avec la création ou l'apogée d'un certain nombre de mouvements des droits de l'homme, dont Amnesty International, bien entendu, qui ont fait ce mouvement transnational en disant il faut absolument regarder ce qui se passe chez les autres, il faut qu'ils mettent des conditionnalités, il faut faire des campagnes pour des prisonniers politiques, contre la torture, etc., etc. Et donc, finalement, une autre manière de faire de la politique des droits de l'homme. Et on a l'impression, finalement, que cette ère, j'allais dire, triomphante de la mobilisation transnationale des droits de l'homme est en train plutôt de s'éteindre. Donc, on continue avec tous ces textes, puisqu'en plus, il y en a tout un tas d'autres qui ont été signés, mais avec, finalement, des restrictions importantes. OK, on signe les textes, on va voir ce qu'on peut faire, mais finalement, la souveraineté est ce qui est le plus important. Et c'est un mot qui revient quand même à grande vitesse.
Oui, alors, à ceci près, vous dites, on revient à 1945, mais 1945, c'était après un conflit. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à croire, peut-être à tort d'ailleurs, que les conflits sont devant nous, Pierre Grosser.
Oui, mais toute l'histoire que l'on fait aujourd'hui de la naissance du régime des droits de l'homme, c'est pour montrer qu'il n'est pas seulement lié aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale.
On voit, en tout cas, Geneviève Garrigos, qu'il y a une situation qui est complètement inédite, c'est-à-dire que vous, qui avez milité en faveur de ces droits de l'homme, aujourd'hui, dit Isabelle Lasserre dans le Figaro aujourd'hui, ce qui est vanté partout, c'est l'efficacité du modèle autoritaire et le relativisme des valeurs. Le relativisme des valeurs, c'est quelque chose qui est parfaitement au contraire à une notion universelle comme celle des droits de l'homme.
Oui, et surtout, c'est ce genre de discours est tout à fait regrettable, surtout que nous sommes dans l'année du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et on voit comment ils sont attaqués. Et quand on parle de relativisme, on le voit, ça a vraiment émergé en 2002, après le 11 septembre, après la déclaration de la guerre contre le terrorisme par George Bush, et aujourd'hui ça se manifeste à travers ce qui se passe avec les réfugiés, notamment. C'est un des, je dirais moi, pour moi, les grands enjeux justement de l'universalisme des droits quand on voit comment ils sont traités. Mais effectivement, les régimes autoritaires, c'est d'une certaine façon confortable parce que les régimes autoritaires, eh bien, on a l'impression qu'il y a une stabilité, que on peut faire des affaires comme on l'entend, du commerce, traités, etc. Mais le problème, c'est que les droits sont une aspiration des populations. C'est pas nous, en tant qu'ONG, qui les imposons. Hein, d'accord ? C'est où que vous alliez dans le monde, il y a une aspiration à plus de droits à la fois civils et politiques, mais sociaux et culturels, et économiques, sociaux et culturels. Et donc, de toute façon, ça ne fait que, je dirais presque, des marmites qui vont finir par exploser avec les conflits que ça génère. Et ça, c'est les conflits que nous avons actuellement.
Mais oui, parce que alors, c'est une longue tradition en relations internationales. Elle remonte à Hegel, donc le philosophe Hegel. La lutte pour la reconnaissance des peuples, elle a été reprise plus récemment par Francis Fukuyama, qui considère que finalement, c'est la lutte pour la dignité qui fait les révolutions, qui a fait les révolutions du monde arabe. Alors, il s'est trompé, ou alors on a affaire à des marmites qui bouillonnent, et finalement les peuples n'accepteront pas, que ce soit les peuples chinois ou les peuples d'autres dictatures, d'être dans cette situation de sujétion, Pierre Grosserre.
Alors, ça dépend ce qu'on appelle sujétion, ça dépend où ça se passe. Il y a quand même des situations qui sont extrêmement, extrêmement différentes. On retrouve finalement quand même assez des critiques très anciennes sur les droits de l'homme, qui datent pratiquement de 1789. C'est-à-dire d'un côté, un certain nombre de gens qui disent que tout ça, c'est des constructions juridiques avec un homme abstrait, et que dans la réalité, il y a des spécificités des communautés, il y a des spécificités des pays, et donc que, par exemple, les droits de l'homme à l'occidental n'ont rien à faire là, puisque c'est quelque chose de tout à fait spécifique, comme on disait qu'il y avait, à cause de la religion, à cause de traditions régionales, les droits de l'homme abstraits ne devaient pas être présents. Et puis il y avait une autre critique aussi dès 1789, plutôt 1793, et qu'on retrouve aussi, qui est plutôt du côté du Vietnam ou ailleurs, c'est de dire qu'en fait, à quoi ça sert d'avoir des droits de l'homme formels si on n'a pas à manger ? Et donc, tant qu'il y a une efficacité économique, donc il y a du progrès, donc on peut avoir de la consommation, etc., etc., c'est ce qu'on pense quand même parfois en Asie, eh bien, à quoi servent ces droits politiques ? Et la grande question qu'on pose depuis très longtemps, c'est est-ce qu'avec l'évolution économique et sociale, et donc la création de classes moyennes, etc., est-ce qu'elles vont être tentées par avoir ces droits ? Est-ce qu'elles vont lutter pour ces droits, ou elles vont pas le faire ? Eh bien, c'est pas si évident que ça. On pensait que ça allait être automatique, eh bien, il y en a d'autres qui sont plutôt favorables à un régime autoritaire qui leur permet de s'enrichir. Et je vous rappelle quand même que l'Allemagne naziste est aussi très largement fondée sur les classes moyennes. Donc, c'est cette vision un peu optimiste, finalement, des transformations par l'économie ne marche pas.
Votre point de vue, Geneviève Garrigos, là-dessus, est-ce que le fait de considérer que finalement, si on accorde une certaine aisance aux individus, aux personnes, eh bien finalement, ils ne réclameront pas plus de droits en tant qu'individus, plus de droits de l'homme.
En fait, déjà, il faut bien voir que pour nous, les droits, c'est pas uniquement les droits civils et politiques, c'est aussi les droits économiques, sociaux et culturels. C'est-à-dire, d'une certaine façon, la répartition des richesses qui te permet d'avoir justement accès à l'éducation, à l'alimentation, au logement et à tout ce qui nous permet de vivre, c'est-à-dire une certaine aisance. Ce que l'on constate à l'heure actuelle, c'est tout de même l'augmentation des inégalités. Et même si il y a des classes moyennes qui peuvent être créées à un moment donné, on s'aperçoit que quand même les écarts se creusent et que il y a de très nombreux pays, notamment en Amérique latine où on voit cette situation. C'est ce qui s'est passé récemment au Nicaragua. Bon, il y a la classe moyenne a pratiquement disparu. Mais au-delà de ça, ce que l'on voit également, c'est que à un moment donné, effectivement, dans des populations où le niveau de vie augmente, eh bien, il y a des aspirations qui vont plus loin. Mais je suis d'accord avec vous, ça dépend des pays, des contextes, des cultures. Mais la base, et nous, c'est ce que nous disons, je veux dire, quelle que soit la culture, quelle que soit la région du monde, les gens sont contre la torture, ils veulent pas qu'on leur applique la torture. Donc, il y a quand même des fondements, il y a des bases qui s'appliquent à tout le monde à travers le monde.
Le problème, c'est qu'il y en a qui sont Pierre Grosser. Pour qui ça ne gêne pas qu'on torture les autres.
C'est là où il y a le relativisme,
non, mais
en fait.
C'est-à-dire, même à l'intérieur d'un pays, c'est-à-dire s'il y a des gens qui posent problème, on est d'accord pour qu'ils soient torturés, mais évidemment, comme vous le dites, on n'a pas envie d'être soi-même torturé.
Oui, mais la question qui se pose, et qui se posait par exemple dans le monde arabe, c'est par exemple ce que dit Fukuyama, il dit que finalement le niveau de vie pouvait être considéré comme en progression, par exemple en Tunisie, mais que cela ne suffisait pas pour que les Tunisiens ne réclament pas un autre pouvoir. Ça, c'est un mouvement qui ne vous paraît pas inéluctable, Pierre Grosser.
Dit par Fukuyama, ça me paraît naturel. C'est un libéral bontain et qui a cette vision relativement optimiste de l'histoire. Et donc, effectivement, si vous avez des classes moyennes, un niveau de vie qui augmente, il va y avoir des besoins, des demandes qui vont augmenter. Bien entendu que ça se passe dans un certain nombre de pays, mais quand même, en termes de classe moyenne, on le voit notamment en Chine, vous avez maintenant une classe moyenne tout à fait considérable et la pauvreté a quand même largement diminué. Ça a encore été rappelé par les époux Gates. Et finalement, ils y sont pas pour grand-chose, il faut bien dire les choses. Évidemment, pour tous ces... on les voit dans nos rues, enfin tous les touristes que l'on voit aujourd'hui dans les rues, il faut imaginer ce qu'ils ont connu dans leur enfance, ce qu'étaient leurs parents, etc., etc. Eh bien, finalement, un des éléments des droits de l'homme pour eux, c'est justement de pouvoir voyager, ce qu'ils ne pouvaient absolument pas faire auparavant, à la fois parce qu'on ne laissait pas partir, et aussi parce que, évidemment, ils n'en avaient pas les moyens.
Mais alors, Geneviève Garrigos, est-ce que vous n'êtes pas finalement nostalgique d'un monde où il y avait des gens comme George Bush? Alors je sais qu'à l'époque George Bush était très largement critiqué, mais au moins avec les néocons, il avait un discours sur la morale dans les relations internationales. Alors, il y avait le discours, puis il y avait les actes. Hein. Mais ce discours, il était porté. Aujourd'hui, on ne l'entend quasiment plus à l'échelle internationale.
C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, le discours a évolué, mais bon, avoir des discours et mener des actes qui sont contraires, ça, je pense que justement, là, il y a une prudence de la part des populations dans les discours qui leur sont donnés sur les droits. Non, de toute façon, pour nous, nous sommes dans un processus. Et donc, bien sûr qu'il y a une réaction, bien sûr que les États, et quand on voit que, justement, le président Trump a menacé la Cour pénale internationale si elle enquêtait sur les soldats américains pour des crimes supposés en Afghanistan, où il allait vraiment avoir des représailles, ben on voit bien que les choses avancent. Et donc, on traverse une phase difficile. Maintenant, il faut voir quels sont les États qui vont être à même, justement, de soutenir ce multilatéralisme, ce respect des droits, parce que c'est de ça dont il s'agit aussi. Hein, quand on impose la force, c'est pas le respect des droits. Et comment se mobilise la société civile qui est plus dynamique?
Mais avec beaucoup de changements, Pierre Grosser, vous êtes intéressé au diable dans les relations internationales. Fut une époque où on disait qu'il y avait des diables et qu'il fallait s'en débarrasser. Il y a eu Kadhafi, il y a eu Saddam Hussein. Aujourd'hui, on dit parfois encore qu'il y a des diables, comme Bachar el-Assad, mais on dit qu'il faut surtout les conserver.
Tout le monde ne dit pas qu'il faut surtout les conserver.
Je parle à l'échelle internationale, et voilà, si on entend Donald Trump ou même Emmanuel Macron, personne n'a dit qu'il fallait que Bachar el-Assad soit immédiatement déposé et en tout cas mis hors d'état de nuire.
Le discours de Macron a un peu fluctué là-dessus, mais on a quand même l'impression qu'il faudrait bien se débarrasser de Bachar el-Assad, et tout le monde est d'accord qu'il y a eu des violations massives de droits de l'homme.
Sur cet accord, tout le monde est d'accord. Sur le fait de savoir si ensuite il faut...
Non, mais est-ce qu'on peut rebâtir une Syrie sur ces massacres-là? Le problème, c'est qu'effectivement, on a eu pendant un certain temps, à l'époque justement de George Bush, un discours finalement relativement simpliste. C'est-à-dire, partant de l'idée que les peuples avaient une demande de démocratie, avaient une demande, j'allais dire, naturelle de droits de l'homme, et donc cette demande ne pouvait pas être respectée parce qu'il y avait des gens épouvantables, des chefs d'État absolument épouvantables qui étaient au pouvoir, des diables. Et donc, si on arrivait et qu'on dégageait à la fois le diable et un certain nombre de ses sbires, notamment ceux du Parti Basse, etc., etc., et bien spontanément, automatiquement, j'allais dire, on allait arriver à ça. Et les exemples, évidemment, c'était d'une certaine façon l'Allemagne. L'Allemagne, une fois qu'il n'y a plus Hitler, une fois qu'il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été faites, etc., eh bien, on a une démocratie pratiquement modèle. Bon, respect des droits de l'homme, etc., etc. Et donc, je crois qu'on a appliqué ça, on a pensé que ça allait s'appliquer partout, et donc il suffisait qu'il n'y ait plus ce diable, et peut-être certains aujourd'hui pensent que si, finalement, Kim Jong-un retourne en Europe occidentale pour finir ses études ou faire autre chose, et donc, automatiquement, on aura effectivement la démocratie, les droits de l'homme, etc., etc. Et évidemment, les processus sont beaucoup, beaucoup plus compliqués.
Geneviève Garrigous.
Oui, et là, il y a vraiment une chose qui nous, pour nous est très très importante, c'est effectivement la question de la lutte contre l'impunité. Parce que quand on parle justement de ces chefs d'État qui massacrent à tout va, le fait qu'on puisse les conserver, le fait qu'ils ne soient pas obligés de rendre leurs comptes, des comptes, finalement pousse à d'autres à aller dans cette direction. Surtout que lorsqu'il y a des résolutions à l'Assemblée, aux Nations Unies et qu'elles ne sont pas appliquées et que les choses ne bougent pas. Donc, pour nous, de toute façon, un des éléments clés des années à venir, c'est quand même la CPI. Et même si elle est imparfaite aujourd'hui, mais il faut qu'elle évolue et elle est toute jeune, il ne faut pas l'oublier.
Et oui, parce que alors, par rapport à ça, Pierre Grosser, tout à l'heure, vous disiez l'après 45, mais c'est probablement à l'entre-deux-guerres à laquelle on peut songer lorsqu'on voit la manière dont la justice internationale fonctionne mal, pas du tout. Enfin, je vous laisse choisir le terme qui vous convient.
Oui, c'était un processus très très long, puisqu'on devait juger Guillaume II, d'ailleurs sans doute pas pour des très bonnes raisons, en 1918, on l'a pas fait, il y a eu Nuremberg, et donc il y a une espèce d'histoire assez téléologique pour dire que voilà, ça a été une longue lutte, on est arrivé à faire des tribunaux régionaux ou ad hoc, ensuite la fameuse CPI, etc., etc. Aujourd'hui, il y a quand même des grosses difficultés avec la CPI, au-delà même du fait qu'il y a l'impunité, il y a quand même eu une réaction d'un certain nombre de pays africains pour dire, bah, tiens, c'est bizarre, il y a pratiquement que des chefs d'État africains ou des chefs de guerre africains qui sont traînés devant les tribunaux, et d'une certaine façon, l'enquête sur l'Afghanistan est une façon de dire, mais non, on s'occupe aussi des puissances. Mais je voulais juste quand même rajouter une chose, que quand même, il y a des évolutions qui sont positives sur l'évolution de la peine de mort, sur les droits des homosexuels, regarde ce qui s'est passé en Inde. Ben voilà, il y a quand même dans le monde des choses qui, des progrès dans les droits, il ne faut pas être non plus si négatif que ça.
Un mot de conclusion justement à cet égard, Geneviève Garrigous.
Oui, ce que l'on constate, c'est que finalement tous ces instruments internationaux ont été conçus pour quelque part limiter les violations et les actes commis par les États. Et donc c'est aussi aux citoyens de s'en emparer. Et de notre point de vue, là encore, le fait que la société civile se mobilise, qu'il y ait de plus en plus de défenseurs, c'est un point extrêmement positif pour l'avenir.
Vous dites ça parce que vous militez chez Amnesty International, Amnesty International France, que vous avez représenté ici, Pierre Grosser. Vous avez publié « L'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle ». C'est aux éditions Odile Jacob.